Salut, ici Ziad Malouf de l'atelier des médias. Je vous reviens d'un long congé où je me suis beaucoup reposé, où j'ai un peu jardiné et où j'ai surtout eu le plaisir d'accueillir mon premier enfant.
Allez, ouais.
Je confirme, c'est une expérience magnifique. Pendant cette période, je me suis aussi offert le luxe de m'éloigner des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, ces entreprises privées à but lucratif que l'on confond avec des espaces publics. J'ai même délaissé le mail, cet outil tellement pratique, mais définitivement chronophage et intrusif. Caché dans mon cocon arboré, j'ai suivi tout de même l'actualité des médias et j'ai été interpellé par le combat de mes confrères d'iTélé pour défendre la liberté éditoriale de leur chaîne d'information à la fin de l'année dernière. À partir de ce lundi 27 février, la chaîne va d'ailleurs changer de nom. Elle s'appellera désormais CNews. Jean-Pierre Elkabbach, Patrick Poivre d'Arvor, Rachid Arab, trois figures historiques du petit écran français, doivent rejoindre CNews, ex-iTélé. Autre annonce emblématique, vendredi prochain, 3 mars, le grand journal de Canal+, ce magazine quotidien en clair, c'est-à-dire non crypté, phare des années 2000 et du style Canal, tirera sa révérence après 13 ans d'existence et une bonne vingtaine de mois de chute d'audience. Bien sûr, tout cela fait partie de la vie normale d'une chaîne et d'un groupe média, changer de nom, modifier sa grille, faire face à une grève même. Mais derrière, il y a une histoire qui est loin d'être banale. Elle est faite de manœuvres financières, de violences managériales, de mise au pas médiatique et d'ambitions synergétiques. Celle d'un groupe Vivendi et d'un homme, Vincent Bolloré, devenu président du conseil de surveillance de Vivendi en juillet 2014. En hommage à la centaine de salariés qui a quitté la chaîne iTélé, en hommage aussi aux dizaines de précaires qui ont été remerciés quelques mois plus tôt, en souvenir enfin de l'esprit Canal+, avec tout ce qu'il avait de génialement irrévérencieux et d'insupportablement snob, l'atelier vous propose aujourd'hui une émission spéciale grâce au travail des Garibert. Restez avec nous.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Ça s'est bien passé le voyage pour venir jusqu'ici? Je vous ai vu arriver en voiture.
Exactement.
Oui.
On teste les micros en fait.
Oui, ouais. D'accord. En général, on nous demande ce qu'on a à manger pour le petit déjeuner. Ouais.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Bonjour Isabelle Roberts.
Bonjour.
Bonjour Raphaël Garrigos.
Bonjour.
Vous êtes tous deux journalistes pour Les Jours. Vous êtes spécialisés dans les médias que vous avez longtemps couverts pour le quotidien Libération. Au Jour, dont vous êtes cofondateur, vous avez une obsession. C'est comme ça que vous qualifiez vos sujets d'enquête. Cette obsession a pour nom L'Empire et sous-titre Comment Vincent Bolloré a mangé Canal+. L'Empire, Comment Vincent Bolloré a mangé Canal+, c'est aussi un livre publié au Seuil qui réunit les premiers épisodes de votre série. Nous avons deux histoires à raconter pour commencer cette émission. La première, c'est celle peut-être de votre obsession. Pourquoi avoir choisi de travailler sur ce sujet ?
Isabelle. Alors, c'est venu à l'époque où Les Jours n'existaient pas encore, sauf à l'état de projet. Et c'est vrai que ça a vraiment commencé à l'été 2015.
Les Jours ont été lancés en février 2016.
Donc, on était en train de travailler sur notre modèle éditorial et les obsessions qu'on allait lancer en premier. Et ça s'est tout de suite imposé comme sujet parce que c'était à la fois une sur le papier, en tout cas, une histoire formidable, au sens... et puis aussi parce que nous, comme vous le disiez, on a longtemps couvert les médias à Libération, et donc du coup, on connaissait très bien Canal+ et les gens qui y travaillaient. Donc, comme une obsession, c'est vraiment un sujet qu'on prend, qu'on ne lâche plus, qu'on creuse. On s'est dit que l'Empire, ce qu'on a appelé l'Empire par la suite, pouvait être une excellente obsession.
Raphaël.
Oui, puis c'est vrai que au-delà même du sujet média de cette conquête de Canal+ par Vincent Bolloré, on trouvait que ça racontait autre chose en dehors des médias. Et c'est un peu ce qu'on veut faire au Jour, avoir des obsessions comme ça qui dessinent un peu un monde. Voilà, on veut et on a l'impression qu'avec l'Empire, on parle aussi d'une certaine violence contemporaine. On parle de
une violence sociale.
Une violence sociale aussi, oui.
C'est, je vous cite, une histoire de violence, c'est une histoire de vengeance, de pouvoir, d'argent, mais c'est avant tout une histoire de violence.
Oui, oui, parce qu'un patron qui arrive dans une boîte et qui change l'état-major, enfin le nouveau propriétaire qui arrive...
C'est normal, ça
après
arrive.
Après tout, c'est normal, ça s'entend qu'il va y travailler avec son équipe. Ce qui est le plus intéressant avec Vincent Bolloré, c'est que lui théorise cette violence. Il le dit lui-même, un peu de violence ne fait...
terreur fait bouger les gens.
La terreur fait bouger les gens. Un peu de violence à la tête d'une entreprise n'a jamais fait de mal. Il le dit texto, hein, on le cite dans les jours. Et cette mise en scène, il l'a fait en réunissant par exemple... C'est une scène qu'on raconte.
On va y revenir. Qu'on raconte,
ouais. Il réunit les 100 plus hauts cadres de Canal+. Et ces 100 plus hauts cadres, un tiers va être viré, séance tenante. Les remplaçants sont déjà là. Il aime ça. C'est sa façon de diriger cette boîte. Et quand on parle de vengeance, on parle aussi d'humiliation. Et il a tendance à faire ça. Quand Jean-Marc Morandini, par exemple, qui était la tête de pont de Direct 8, de sa Direct 8, de Vincent Bolloré, est la première personne virée par Canal+, quand Canal+, rachète Direct 8. Ensuite, Jean-Marc Morandini est la première personne que Vincent Bolloré impose sur iTélé. Il y a quelque chose de l'humiliation, oui, là-dedans.
C'est une violence sociale, et on le savait pas au moment où on a écrit cette phrase, parce qu'on l'a écrit à l'été 2016, mais c'est une violence sociale, parce qu'effectivement, ça commence par les patrons, et ça se finit, et à mon avis, ce n'est pas encore fini, par la crise à iTélé, et le départ de 100 personnes d'une rédaction.
Et la fin d'émission emblématique de Canal+, on va aussi y revenir. Vous vous dites au début du livre, bon, effectivement, c'est une reprise en main d'une entreprise, mais il y a aussi une sorte de projet éditorial derrière, ce projet que vous qualifiez d'intégration verticale. Je vous cite encore, pour faire simple, disons qu'il s'agit de produire un film Studio Canal avec une artiste Universal en tête d'affiche, donc Studio Canal, Universal, possession du groupe Vivendi, d'assurer la promo du chef-d'œuvre ainsi réalisé dans le grand journal de Canal+, lequel chef-d'œuvre aura une critique des plus laudatrices dans Direct Matin, sera ensuite décliné en comédie musicale dont la tournée ne manquera pas de passer par l'Olympia, celui de Bruno Cocatrix à Paris, racheté par Bolloré, mais aussi par Canal Olympia, la salle qu'est en train de créer l'homme d'affaires à Conakry, en Guinée.
C'est une certaine vision de la culture, c'est que on peut se dire que pourquoi pas, après tout, il y a des artistes chez
on peut se dire logiquement, c'est un groupe, pourquoi ne pas valoriser les différentes marques du groupe au sein d'autres marques,
voilà. C'est une logique commerciale qui est peut-être pas idiote, sauf que peut-être que Vincent Bolloré fait ça avec talent quand il s'agit de transporter des containers du port de Conakry à je ne sais pas quel autre port.
En tenant des voitures électriques, etc.
Exactement. Ouais. Autant, la culture, c'est quelque chose d'un peu plus diffus que ça, un peu plus libre que ça.
La culture et l'information, parce que même si les grands magazines de Canal+ sont des magazines de divertissement, ils ont aussi un volet informatif, ils diffusent des informations, et puis, d'une certaine manière, si on choisit avec un biais tel qu'il faut que ce soit un artiste maison, etc., il y a une forme de mensonges.
Exactement.
Et de manque de diversité.
Ça n'a pas été facile, j'allais dire autre difficulté, mais il y en a des tonnes de difficultés. Ça n'a pas été facile, j'imagine, d'enquêter sur cette histoire, d'enquêter sur Bolloré. Vous le dites dès le début du livre, la plupart des témoignages que vous avez recueillis sont anonymes. Les rendez-vous ont été fixés dans des lieux très très éloignés de lieux où on pouvait rencontrer des confrères. Il y a eu l'utilisation de cartes prépayées pour les personnes qui vous contactaient, etc. Donc vous attendiez probablement à ce style d'enquête, mais peut-être pas à ce niveau-là.
Oui, exactement. On a beaucoup travaillé à Libération, notamment sur les médias, et on a été habitué dans ce secteur très petit et très incestueux, souvent, avoir des méthodes de sioux, effectivement, pour parler aux gens. Mais moi, je l'avais jamais vu à ce point-là.
Oui.
Les gens qui refusent de parler, ou alors qui, effectivement, emploient des méthodes à chaque fois, il y a une crainte des gens qui est souvent liée à des, pour ceux qui sont partis de Canal+, à des clauses de confidentialité qu'ils ont dû signer en partant en échange de leurs indemnités. Mais au-delà de ça, il y a quand même
La terreur fait bouger les gens. On y revient, c'est-à-dire que il y a une véritable terreur qui a été instaurée, et de fait les gens ont peur. Alors après, nous, ce qui est bien avec notre système d'obsession, c'est que comme on travaille dans la profondeur et sur le long cours, on peut établir des relations de confiance, et on s'aperçoit vite, les gens s'aperçoivent vite qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'on fait attention, qu'on ne les reconnaîtra pas, et parallèlement évidemment, nous, dans notre travail de journaliste, c'est aussi tout un travail de preuves concrètes qu'on a d'ailleurs, hein, des documents, des choses qui font que si un jour par...
J'allais y venir parce qu'il y a également un risque de procès quand on travaille sur Bolloré. Son groupe a intenté plusieurs procès à des journalistes, France Inter, Bastamag, notamment celles et ceux qui ont travaillé sur l'Afrique.
Oui. Ouais.
Ce qui n'est pas votre cas.
Ce qui n'est pas notre
cas. Mais j'imagine que vous avez toujours ça en tête, quoi, le fait, un procès pour diffamation, etc.
Alors oui, on l'a en tête, et d'ailleurs, nous, on a des avocats, qu'on consulte, et qu'on a consulté à plusieurs reprises pour la publication de certains articles, qui nous ont conseillé, on a suivi ces conseils ou pas, mais en tout cas, à chaque fois, on est vraiment, vraiment blindé. Alors, voilà, Vincent Bolloré, fais attention.
Il y a aussi le fait de travailler à deux qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a finalement deux fois plus de sources et
parce que vous séparez dans l'enquête, vous prenez des rendez-vous séparément, etc. Vous écrivez les papiers, vous les signez tous les deux,
oui.
Mais comment ça se passe?
On a chacun nos contacts dans le groupe, dans la chaîne, à divers endroits, et puis après on se dit, qu'est-ce que t'as eu, toi? Moi, il m'a dit ça, et il me dit ça aussi. Donc, si deux personnes différentes vous disent la même chose, on en trouve une troisième pour corroborer, mais...
J'imagine que vous vous cachez pas vos sources, quand même.
Ah, ça dépend.
Ça dépend.
Ça dépend, non, parfois.
Il y a des personnes qui vous disent, Isabelle, ne dites pas
Non, il y a personne qui me dit, qui me dit ça, mais parfois...
Ça pourrait, hein.
Parfois, quand c'est très très touchy, ça a pu arriver. Mais,
c'est vrai.
Désolé. Peut-être que je te montre. En fait.
Revenons sur l'histoire. Donc Vincent Bolloré prend la tête du groupe Vivendi à l'été 2014, et puis là il y a un an relativement calme, et c'est à l'été 2015 que les choses commencent à bouger et que les têtes commencent à tomber. Les deux premières têtes, c'est Rodolphe Belmer, donc le numéro 2 de Canal+, en charge des programmes.
Oui, c'est là où ça devient vraiment très spectaculaire finalement, parce que pendant un an il y a quelques petites alertes, des papiers qui disent que Vincent Bolloré il veut se débarrasser de Rodolphe Belmer.
C'est Bertrand Méheux qui veut se débarrasser de Rodolphe Belmer.
Voilà, il y a tout ça, mais c'est vrai que ça devient spectaculaire à l'été 2015, avec l'éviction de Rodolphe Belmer sous le prétexte des guignols, c'est-à-dire que Vincent Bolloré veut supprimer les guignols.
Donc
Rodolphe Belmer, autrefois bien connu, Rodolphe Belmer s'y oppose et il prend ce prétexte pour se débarrasser de lui, et à partir de là va s'enclencher une espèce de mécanisme de violence, c'est-à-dire qu'ensuite on a Ara Aprikian qui dirigeait le pôle gratuit,
les chaînes gratuites, C8, iTélé qui va bientôt s'appeler CNews, etc.
Tout ça se passe au début de l'été. Après l'été, donc après la rentrée, début septembre, le 3 septembre exactement, il y a plusieurs réunions, il y a un comité d'entreprise, un conseil de surveillance du groupe Canal+, et enfin un comité de management, vous l'avez mentionné, ça se passe le 3 septembre, et ce comité est un véritable jeu de massacre.
Avant l'été, je vous avais dit que nous allions revoir la structure et l'organisation dès le retour de l'été. J'espère que vous avez quand même passé un bon été, vous n'avez pas eu trop peur
Il faut prêter l'oreille parce que c'est un son volé au téléphone portable par une personne, on ne sait pas qui était présente. Ce que dit Vincent Bolloré, donc, pour accueillir les dirigeants du groupe qui sont présents. Avant l'été, je vous avais dit qu'on allait revoir la structure et l'organisation dès le retour de l'été. J'espère que vous avez quand même passé un bon été, que vous n'avez pas eu trop peur des purges possibles. C'est une belle entrée en matière. Ça laisse pas nécessairement présager que des têtes vont tomber. Et pourtant, ce jour-là, des dizaines de têtes tombent en direct. Les gens apprennent aux côtés de leurs collègues qu'ils sont virés, et ils l'apprennent même pas parce qu'ils sont désignés comme virés, mais parce qu'on nomme les personnes qui les remplacent devant eux.
Oui, ce qu'a fait Vincent Bolloré ce jour-là, c'est qu'il ne nomme pas les gens qui sont virés, il nomme leurs remplaçants. Il annonce, il présente ses remplaçants en disant voilà, un tel qui est un génie du marketing, et les gens ne comprennent même pas, c'est-à-dire que ceux qui sont remplacés comprennent quand même assez vite qu'ils vont l'être, mais ceux qui remplacent ne comprennent pas tout à fait. C'est le cas de de Guillaume Zeller qui se retrouve à la tête d'Itélé et il parle avec Céline Pigalle qu'il remplace et il lui dit bon, on va peut-être se voir la semaine prochaine pour qu'on voit comment ça
il
se passe.
Il pense qu'il va travailler avec elle,
oui.
En fait non,
et
c'est
elle lui dit,
il a
non,
pris
non,
sa place.
Je crois que vous n'avez pas compris quelque chose, c'est que vous me remplacez en fait. Donc non, on va pas faire de passage de relais.
Alors, ce qui est extrêmement violent aussi, c'est ça, c'est que les gens qui sont virés, leur nom n'est pas prononcé. C'est-à-dire qu'ils n'existent même plus dans les mots de Vincent Bolloré. Ça, c'est extrêmement violent.
Et c'est au final, un tiers de ces 100 cadres qui sont réunis ce jour-là qui vont être virés. Oui.
Il a le sens de la formule, Vincent Bolloré, vous le citez à plusieurs reprises, donc il appelle ça avoir un petit électrochoc permettant aux collaborateurs de voir qu'il y a un problème. Pendant cette période, il y aura une secousse à la tête et une stabilité dans le corps. Là, vous ajoutez dans le livre que c'est une bonne définition de la guillotine, donc effectivement, il a un peu guillotiné ses entreprises, mais la stabilité dans le corps, finalement, elle n'a pas vraiment eu lieu. Il y a eu en mai 2015, c'était légèrement avant, il y a eu un documentaire du magazine Spécial Investigation sur les dirigeants du Crédit Mutuel qui a été très probablement censuré par Vincent Bolloré, donc qui n'est pas passé sur Canal+.
On peut le dire. Il le dit lui-même, hein. Il le dit dans un...
certain moment, il a dit qu'il ne savait pas comment censurer,
publiquement,
qu'il n'aurait pas pu le faire.
Quand il a été interrogé, il a dit qu'il n'avait pas censuré, mais il l'a dit dans des comités de management. C'est dans des PV, c'est dans des enregistrements.
En octobre, donc quelques jours après cette réunion, c'est France 3 qui reprend le reportage incriminé, qui le diffuse, et le lendemain, le zapping de Canal+ en diffuse de larges extraits. Le zapping qui récidive le 8 avril 2016, donc quelques mois plus tard, en diffusant de longs extraits d'un numéro du magazine Complément d'enquête consacré à Vincent Bolloré et diffusé le 7 avril. On écoute des extraits du zapping.
Portrait d'un grand patron qui n'aime pas qu'on parle de lui. Vincent Bolloré, le pirate du capitalisme français, le breton qui a fait d'une petite entreprise familiale un empire en Afrique, dans la voiture électrique, dans les médias. Il est sorti de l'ombre en prenant le contrôle de Canal+, où il a mis tout le monde au pas, brutalement. Vincent Bolloré, et si c'était lui l'homme le plus puissant de France ?
Je me remémore tout ce que j'ai appris pendant mon entraînement. Avant tout, il faut respecter l'environnement et le matériel avec lequel on travaille. Il faut prendre son temps, être sûr de ce qu'on fait, et surtout ne pas fanfaronner.
Il y a un an, pile poil, le vrai patron de Canal, c'était lui, Bertrand Méheu. Avec son nouveau copain, l'amitié aura duré 6 mois. Mécontent de la baisse des abonnés, l'actionnaire finira par avoir sa peau le 3 septembre. Une exécution en public, le matin... En comité d'entreprise, Vincent Bolloré annonce la couleur.
La haute direction d'une grande maison mérite un peu de terreur, un peu de crainte.
Oh, ils sont dans le ring !
Il y a du mouvement dans le ring !
Il y a du mouvement dans le ring !
Président, DG, DRH, responsable cinéma, sport, pub, antenne, secrétaire général, patronne d'Itélé, patron de D8, de Studio Canal. Une trentaine de hauts dirigeants virés sans ménagement et remplacés par des proches de l'actionnaire.
C'était un extrait du zapping du 8 avril 2016, feu zapping, puisque le zapping et également la case investigation de Canal+ ont été abandonnés quelques semaines plus tard, en juin 2016, au prétexte que l'investigation, il y en a partout, nous ne sommes plus pionniers, disent les personnes qui veulent abandonner, je ne sais pas ce que ça veut dire, nous ne sommes plus pionniers, et le zapping, il y en a sur toutes les chaînes, donc pourquoi continuer ?
Oui, c'est l'argument de Gérald Brice-Viré, donc le directeur des antennes de Canal+, pour annoncer la suppression de ce qui était un peu les derniers gratte-poils de Canal+, oui. Bon, résultat, le zapping s'est retrouvé sur France 2, qui s'appelle Vue, désormais, avec son patron Patrick Meunet.
Et c'est vrai que là encore, la censure de l'émission sur le Crédit Mutuel est fondatrice, parce que c'est à la suite de ça qu'il y a tous les problèmes avec le zapping, puisque Patrick Meunet, dont l'émission consistait à refléter la télévision, raconte aussi cette histoire avec son art du montage qui est assez dévastateur. Et là, ça se passe très mal pour lui. Il y a tout un tas d'histoires comme ça qui s'enchaînent avec une certaine cohérence dans cette histoire de l'Empire, en fait.
Courte pause dans l'atelier des médias. Raphaël, Isabelle, restez avec nous. Dans la deuxième partie, nous irons notamment rendre visite aux équipes d'Explicit, le média lancé par des anciens d'ITélé en janvier dernier.
Le FESPACO 2000.
Des médias, nous sommes cette semaine avec Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, journalistes au Jour, où ils suivent depuis plus d'un an l'histoire de la prise en main du groupe Canal+ par l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Un feuilleton plein de suspense et de rebondissements qu'ils racontent sur leur site lesjours.fr et dans un livre recueil intitulé L'Empire.
Je peux vous dire, j'en veux Bolloré parce que il n'a pas voulu prendre le temps. On savait dit qu'il ne s'intéresse pas vraiment les gens qui fournissent ce travail.
Cherche pas, t'auras pas le temps de comprendre.
J'arrive.
Y'a un truc dans l'air, ça sent le sang.
J'arrive.
Y'a une guerre qui se prépare, l'adrénaline est mon phare.
J'arrive.
Jaguar, Aka, Radio et Star.
J'arrive.
Comme un régulateur, sans conscience dans son peur.
J'arrive.
J'ai l'instinct d'un tueur.
Ah.
J'ai un avion à réaction extrême. Adversaire ou ennemi, c'est la main.
J'arrive.
Mais pourquoi est-il si méchant ?
Parce que !
Raphaël Garrigos, Isabelle Roberts, on l'a compris dans la première partie de l'émission. C'est vrai que la manière dont Vincent Bolloré prend en main le groupe Canal+ est violente, elle est choquante à plus d'un titre, mais bon, on peut se dire que dans les affaires, parfois ça se passe comme ça et que si ça marche derrière, tant mieux. Mais là où c'est problématique, c'est qu'en fait, ça ne marche pas. Les abonnés fuient Canal+, notamment.
Oui, c'est là où c'est intéressant, pardon. C'est là où c'est intéressant, c'est que effectivement, le business de Vincent Bolloré semble être un show business, comme on a pu l'écrire.
Si finement.
Il a perdu quelques 550 000 abonnés, je crois, l'an dernier. De toute façon, c'était pas non plus un groupe qui était. C'est un groupe qui n'allait pas très très bien non plus.
Oui, c'est face important. À une nouvelle concurrence extrêmement
importante. Oui, voilà. Tout n'était pas rose dans Canal+ avant Vincent Bolloré. Tout n'est pas devenu catastrophique après. Ça, c'est important quand même. C'était un groupe qui était quand même largement dépassé et qui n'avait pas vu venir certaines révolutions dont la révolution numérique. Mais le problème, c'est que la stratégie de Vincent Bolloré ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, alors, il y a les chiffres que Raphaël a donnés, mais par exemple, nous, on a, sur lesjours.fr, on a sorti tout récemment les chiffres des recrutements d'abonnés sur 2016. C'est moins 21% aussi. Donc, ça ne fonctionne pas.
Je l'ai rappelé dans la première partie, à un moment Vincent Bolloré dit on va couper la tête mais le corps reste stable. Bon, la suite a montré que ça n'était pas du tout le cas. Et là où c'est peut-être le plus clair, c'est sur le cas d'ITélé.
Oui.
Dès le mois de juin 2016, il y a toute une série de décisions relativement étranges, on va dire, donc les personnes qui sont remerciées, d'autres qui arrivent à leur place et qui, d'après leur curriculum vitae, n'ont absolument pas les épaules pour diriger une chaîne d'information.
Oui, puis aussi, ils se retrouvent confrontés pour la première fois à une... Finalement, quand ils virent les belles-mères, les Méheux, les Ara Aprikian, tout ça, c'est des gens qui...
Alors, on dit « il », mais c'est un groupe, hein,
j'imagine. Oui, là, en l'occurrence, c'est lui personnellement.
Il faut comprendre un truc avec Vincent Bolloré. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de tout. Vraiment. C'est-à-dire des changements dans les émissions, des gens qu'il faut virer ou pas, c'est vraiment lui qui décide de tout.
Et avec ITélé, c'est la première fois finalement qu'il se retrouve confronté à un corps social, à une 200 personnes qui travaillent et qui travaillent ensemble. Et là, il y a c'est ce à quoi il s'attendait pas. Avant, c'est un patron ici dans un bureau, il est viré, il prend ses affaires, il s'en va. Là, il se retrouve confronté à un corps social qui dit non,
on n'est pas d'accord. Il y a un de nos témoins qui nous disait, pour Vincent Bolloré, l'armée, c'est déjà légèrement indiscipliné. Alors, imaginez une rédaction. Et là, voilà, il y a 200 personnes, et en plus 200 personnes, parce qu'il faut comprendre un truc avec ITélé, c'est une histoire assez intéressante. C'est-à-dire quand effectivement, comme vous le disiez, Vincent Bolloré vire Cécilia Aragno, directrice générale, et Céline Pigalle, directrice de la rédaction, il les remplace par des gens qui sont véritablement des insultes pour les journalistes. Ces personnes sont Virginie Chomiki, qui est
une journaliste junior, on peut dire.
Junior, on peut dire
qui
ça.
Qui a fait des remplacements d'été
sur LCI, qui a fait les bandeaux, vous savez, qui déroule sous les titres sur LCI, qui a fait des remplacements chez TV5.
Ça ne veut pas dire qu'elle est incompétente, mais en tout cas.
Ça ne veut pas dire qu'elle est incompétente, mais elle n'a pas vraiment.
Sur le papier, en tout cas, c'est pas rassurant pour les équipes.
C'est pas rassurant. Et Guillaume Zeller, qui a un CV très approximatif.
Rédacteur en chef de Direct Matin.
Voilà, rédacteur en chef du site de Direct Matin. Voilà. Donc, quand on est une rédaction et qu'on nous annonce ça, enfin, c'est une insulte et c'est pris comme tel par les journalistes.
Au mois d'octobre dernier, les salariés de la chaîne d'information iTélé du groupe Canal+ se sont mis en grève. Ils protestaient notamment contre l'embauche annoncée, on en a parlé, de l'animateur Jean-Marc Morandini. Ce mouvement arrivait bien sûr après des mois d'incertitude liés à la reprise en main de Canal+ et du groupe Vivendi par Vincent Bolloré, des mois d'inquiétude quant au projet éditorial des nouveaux dirigeants.
Plus de directs fournis depuis 11h ce matin à iTélé. La rédaction de la chaîne d'information continue est en grève.
Cette grève a finalement duré un mois. Elle s'est terminée le 16 novembre 2016. Elle s'est soldée par un échec des salariés qui n'ont pas obtenu gain de cause et par le départ de plusieurs dizaines de collaborateurs de la chaîne d'information faisant valoir ce qu'on appelle une clause de conscience proposée par la direction. Deux mois plus tard, mi-janvier, une partie importante des anciens d'iTélé a annoncé le lancement d'un nouveau projet, nom de code explicite.
Bonjour, nous sommes une cinquantaine de journalistes, pour l'essentiel d'anciens d'iTélé, avoir décidé de reprendre notre liberté, bien décidés aujourd'hui à nous en servir. Nous avons créé une association, Journalistes Associés, où chaque journaliste s'est engagé à travailler pour un temps bénévolement. Nous avons créé un nouveau média, explicite, à destination des réseaux sociaux. Il est de notre responsabilité à tous en tant que journalistes de poster, de publier du contenu d'information sur ces réseaux. Et c'est l'objectif d'Explicite.
La voix que vous entendez est celle d'Olivier Ravanello, ancien président de la Société des journalistes d'iTélé et ex-journaliste de la chaîne, dans une vidéo face caméra où il présente Explicite. Pourquoi avoir choisi de lancer un média diffusé exclusivement sur les réseaux sociaux? Quels stigmates ont laissé les luttes qui ont mené à la naissance d'Explicite? Et à quoi ressemblent les productions de ce jeune collectif? Pour en savoir plus, mardi dernier, Constance Léon et moi-même sommes allés au siège de Yahoo France qui héberge l'équipe d'Explicite. Nous arrivons à 11h, c'est le début, nous ne savions pas, de la conférence de rédaction hebdomadaire.
Après, on verra aussi la qualité de ce qui remonte comme thématique. Ça se trouve, ce sera pas assez pertinent. Il faut aller rencontrer les gens sur place, mais on va essayer comme ça.
14 personnes dans une petite salle autour d'une large table. 11 hommes, 3 femmes pour être précis, de part et d'autre de la pièce. 2 téléphones portables sur pied filment la conférence à destination des journalistes associés absents.
C'est le prolongement de la réunion, effectivement. Ça permet à ceux qui sont pas là de suivre les débats, de proposer des choses. Et même là, en l'occurrence, l'un des journalistes associés était à l'étranger. Ça permet de voir où on en est et puis d'interagir.
Lui, c'est Emmanuel Goubert, ancien d'iTélé, membre d'Explicite.
On a de toute façon plaisir à se retrouver et à discuter. C'est important aussi parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux puisque c'est là qu'on a choisi de diffuser. Mais à un moment, on a besoin de se voir en face et de se parler et de discuter. Donc c'est important qu'il y ait ces moments d'échange entre nous.
Il y a aussi ce besoin de, puisque vous dites c'est important qu'on se voit, de faire corps aussi. Vous avez tous vécu une expérience particulière qui peut être un peu traumatisante, hein, la violence dans le travail, etc. Est-ce qu'il y a aussi cette idée de vous retrouver, de vivre ça ensemble?
Je pense qu'il faut pas mélanger les choses. L'aventure qu'Explicite représente, c'est pas une thérapie. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Peut-être que certaines personnes le vivent plus comme ça, mais je pense que c'est plutôt, on est tous attachés à notre métier. On a envie de le faire et on a envie de le faire ensemble pour ceux qui ont décidé de faire partie de cette association parce que, on sait que ça fonctionne et puis qu'on a plaisir à travailler ensemble. Donc j'insisterai plus là-dessus, sur le côté de l'envie de se retrouver pour refaire des choses.
Vous l'avez évoqué, vous avez choisi au lancement d'Explicite de n'être présent que sur les réseaux sociaux, donc de diffuser sur Facebook, Twitter, Periscope, YouTube, etc. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, c'est
peut-être pas un choix extrêmement original, mais vous avez choisi de pas avoir de site mère, de site où vous mettez vos productions.
Alors il y a un site, mais qui est pour l'instant vraiment
vide.
Il est vide, ouais, il est en friche. Ça demande beaucoup plus de développement. C'est aussi, il y a des raisons pratiques. C'est, on s'est lancé rapidement, et puis on avait envie de très vite pouvoir être accessible au plus grand nombre pour pas avoir la frustration de partir dans un développement trop long. Donc je dis pas qu'il y aura pas un site plus abouti dans quelques temps ou une application pour mobile, mais c'est vrai qu'il y a une telle facilité à pouvoir mettre en ligne des contenus, vidéos, textes, audio, photos, quoi d'autre sur les réseaux sociaux, que ce serait dommage de s'en priver. Donc on a vraiment accès là-dessus, et puis ça correspond aussi à notre démarche qui est assez participative avec les gens qui font partie de la communauté, de ceux qui nous suivent. On veut être en interaction, on a besoin d'avoir leur retour, et le retour on l'a facilement dans les commentaires de nos vidéos, donc ça marche bien comme ça.
Mais il y a quand même un risque de dépendance et de manque d'indépendance du coup vis-à-vis de ces plateformes qui ont des stratégies qui changent en permanence par rapport à la diffusion, au partage des contenus, etc.
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté encore très mouvant. Ce sont des plateformes qui sont à la fois très diffusées et qui sont globalisées. Maintenant, tout le monde y a accès, ou presque partout dans le monde. Donc, il y a un côté un peu magique, c'est vrai, à pouvoir toucher tout le monde avec assez peu d'intermédiaires. Mais en même temps, la face moins connue, c'est que il y a des logiques commerciales qui parfois nous échappent aussi un peu. On ne sait pas toujours quelles sont les décisions qui sont prises par ces plateformes. Donc on sait que ça peut être problématique maintenant. Des contraintes, il y en a partout. On vient de la télévision où il y a de la publicité, il y a les contraintes liées au CSA qui régissent chaque chaîne, les logiques industrielles, les groupes qui sont propriétaires des chaînes. Je pense qu'il n'y a pas de terrain vierge de toute contrainte pour l'exercice du journalisme. Il y en a toujours un peu et il faut en tenir compte.
Explicite est donc un projet en cours d'écriture. Nous allons évoquer dans un instant les formats, mais ce que vient de dire Emmanuel Goubert sur les contraintes rappelle tout de même que ce sont ces mêmes contraintes, poussées à l'extrême probablement, qui ont convaincu une centaine de salariés de quitter la télé pour laquelle ils travaillaient depuis 5, 10, 17 ans pour certains, puisqu'iTélé a été lancé en novembre 1999. Olivier Prédhomme avait rejoint iTélé au milieu des années 2000.
C'est jamais agréable de quitter la société pour laquelle on bosse depuis, pour ma part, 12 ans. Je bossais 12 ans pour iTélé, qui était une chaîne que j'aimais beaucoup et que je voulais faire grandir et que c'était mon quotidien pendant 12 ans. Et donc la quitter a été compliquée, déjà, ne serait-ce que pour des raisons affectives avec la chaîne. On a toujours un lien affectif avec le média ou la société pour laquelle on travaille. C'était mon cas pour iTélé. Et après, pour des raisons familiales, j'ai 3 enfants, une femme, des crédits, un loyer, enfin voilà. Et donc, on fait un trait aussi sur un salaire fixe tous les mois, sur des avantages de société. Et donc, c'est compliqué de quitter sa boîte, en plus dans des circonstances dans lesquelles ça s'est fait. Et donc, c'était pas agréable.
Pour vous, qu'est-ce que c'était ces circonstances ?
Non, bah c'est des circonstances d'un conflit social comme il peut y avoir dans beaucoup de sociétés en France. On n'a pas été mieux ou moins bien traité que les Goudières, que le Jabi, que... Enfin voilà, on a été dans les mêmes circonstances, un vrai conflit social. Et on se rend compte même que c'est... on est passé de l'autre côté de la barrière aussi. On tendait le micro aux gens pour qu'ils nous expliquent et puis... Ça s'est inversé, on nous a tendu les micros pour que nous on explique notre conflit, et c'est pas facile à vivre.
Il y a un caractère social à ce conflit évidemment, mais il y a un caractère peut-être éditorial aussi.
Ça va être compliqué d'en discuter, de parler de ça concrètement. C'est compliqué, ouais.
Petite précision, lorsqu'Olivier Prédhomme dit qu'il est compliqué de parler de la bataille éditoriale autour d'iTélé, il fait allusion au fait que les partants d'iTélé, comme dans la plupart des entreprises, ont signé une clause qui limite leur capacité de s'exprimer sur leur employeur passé. On doit donc choisir ces mots minutieusement. Raphaël, Isabelle, vous êtes toujours avec nous. On va reparler avec les équipes d'Explicite dans un instant. Mais je veux bien que vous réagissiez à cette situation.
À la situation, au fait qu'il ne puisse pas parler. Oui, oui. bah effectivement, ce qui ne peut pas dire, enfin ce que ne dit pas Olivier Prédhomme, c'est que en partant, ils ont signé un contrat dont une clause les oblige à ne pas dénigrer.
Ce qui se fait partout, hein.
C'est pas... Ce qui se fait partout et qui est moyennement légal, hein, d'ailleurs. Hein, mais cela dit, ils n'ont pas tellement envie de se lancer dans un procès avec Bolloré maintenant. Enfin, ils en ont assez bavé comme ça, donc voilà. Oui, vous le soulignez dans votre reportage, c'est vraiment un conflit éditorial. Voilà, c'est un conflit au cours duquel les journalistes d'ITélé n'ont cessé d'avoir des revendications éditoriales et éthiques. C'est-à-dire, ils ont demandé une chose incroyable quand même. Il y avait cette chaîne qui s'appelle CNews qui devait commencer et ils ont dit bah, on voudrait un projet. Sauf que en face d'eux, personne n'était fichu de leur fournir ce projet sur lequel Virginie Chomiki était censée travailler depuis le mois de septembre 2015.
Ce qui est intéressant aussi et ce qui montre aussi l'importance peut-être de votre travail, c'est que l'essentiel de tout ce que vous racontez aurait pu se passer sans que personne n'en parle, parce que ça se passe derrière les murs d'une entreprise, parce que justement, la plupart des personnes qui ont été humiliées, je pense qu'on peut utiliser le mot, en public, ont signé des clauses qui les empêchent de réagir derrière, en tout cas publiquement. Et du coup, ça montre l'importance parfois de forcer les portes, de s'entêter, d'avoir une obsession, c'est le mot que vous utilisez, sur un sujet qui serait sinon... voilà, qu'on aurait pu ne pas voir passer.
Ouais, c'est assez, ça a été intéressant pour nous aussi parce que finalement on a appris en marchant et cette grève, ça a été aussi un moment important pour les jours parce que on a pu tester à fond le système d'une obsession. C'est-à-dire que là, on était franchement quasiment en immersion avec eux. La seule chose qu'on pouvait pas franchir, c'était les murs parce que y a des badges et voilà. Mais bon, et c'était vraiment un vrai travail de fou. Honnêtement, on était vraiment avec eux tout le temps. Et c'est vrai que c'était important de le raconter et je pense que c'est important que ça reste pour dire que ça existait en 2016 en France. Voilà, c'est oui, on a pu faire ça.
Oui, quand Olivier Prédhomme parle de conflits sociaux, style Goodyear, on peut se dire mais bon, c'est des gens de la télé, c'est des journalistes, etc. Il faut voir que c'est, effectivement c'est un conflit qui ressemble beaucoup aux conflits sociaux dont on entend parler régulièrement, violence incluse, et que cette rédaction d'ITélé, c'est pas des stars de l'info avec des salaires mirobolants. On nous parle d'un grand reporter qui prend beaucoup de risques et qui est payé 2000 euros par mois, ce qui peut peut-être sembler beaucoup pour
C'est une somme de 1000 euros, mais pour être grand reporter et faire des reportages, voilà.
Et par rapport à ce qui se pratique dans d'autres rédactions privées, ça va.
Ou par rapport au salaire de Cyril Hanouna, auquel vous consacrez un des articles ou un des chapitres du livre. Donc, je ne sais pas quel est son salaire exactement, mais sa reconduction pendant 5 ans à D8, anciennement D8, nouvellement C8, a été négociée pour 250 millions d'euros.
Oui.
C'est ça ?
Voilà.
Revenons maintenant à Explicit. Une des choses qui ont frappé les observateurs, c'est la rapidité avec laquelle les anciens d'ITélé se sont retrouvés pour lancer ce projet de journaliste associé. Olivier Prédhomme.
Bah, Explicit, ça s'est créé, je veux dire, sur un comptoir de bar, un soir, en soirée, parce qu'on se revoyait tous, une fois qu'on est parti, on s'est revus derrière, et puis on s'est dit, ah bah mince, c'est dommage, on travaillait bien ensemble, ouais, c'était cool, ouais, c'était sympa, et puis tu te souviens, voilà, des souvenirs de mission, parce que on a tous travaillé ensemble longtemps, et puis on s'est dit, bah, pourquoi on retravaillerait pas ensemble? Ah bah oui, mais dans quel cadre? Bah, clairement un truc. Au départ, c'était un truc, et puis ensuite, on a gambergé, on a, beaucoup de gens nous ont aidés pour travailler sur le nom, pour travailler sur le logo, et puis, on a commencé on a fait une vraie réunion, une première AG en disant voilà l'idée qu'on a, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous dit, est-ce qu'on y va? Et puis c'est parti comme ça, c'est parti très vite. Il y a de toute façon une problématique économique qui à un moment va se poser, à un moment ou à un autre, donc ça on verra dans les semaines et les mois qui arrivent.
Côté format, vous avez réalisé peut-être une petite centaine de vidéos de contenu aujourd'hui, toutes plateformes confondues. Alors il y a des plateaux avec des invités d'une durée assez longue. Il y a des expériences. Vous allez regarder un match de foot chez des supporters du Paris Saint-Germain. Vous passez la soirée à regarder le match en direct avec eux. Il y a des reportages plus traditionnels, 3-4 minutes. Il y a peut-être des débuts d'enquête. Vous avez publié quelque chose sur le sort des personnes qui ont
qui ont travaillé avec l'armée française, des interprètes qui ont travaillé avec l'armée française en Afghanistan et qui tentent désespérément pour une partie d'entre eux de venir en France pour se protéger, etc. Qu'est-ce que vous êtes en train d'explorer aujourd'hui ou vous avez déjà une manière de faire, une envie de faire des choses particulières?
Alors il y a effectivement une part encore d'exploration, c'est peut-être pas le mot, mais ce sont des formats qui pour nous sont nouveaux aussi dans leur mode de diffusion, donc il faut qu'on arrive à appréhender la manière dont les gens reçoivent ces vidéos, quel est le mode de consommation. On sait aussi que beaucoup d'utilisateurs regardent ces vidéos sur mobile, parfois sans le son, d'où la nécessité d'écrire les sous-titres pour que l'essentiel du message, du contenu puisse être accessible à des gens qui n'écouteraient pas le son de la vidéo. Tout ça sont des choses, il faut en tenir compte, il faut s'adapter à ça. Et puis c'est vrai que sur la variété des formats, on tente des choses qu'on n'aurait clairement pas pensé, même imaginé en télévision. Comme on a fait une séance avec un journaliste, Stéphane Etcheverry, qui a suivi un entraînement du 15 de France en rugby à Marcoussis. Il s'est pas contenté de filmer quelques images de l'entraînement, il a fait presque une heure de direct dans le centre national où s'entraînent les équipes de rugby de l'équipe de France, pour en raconter les coulisses, pour discuter avec certains des joueurs. Il croise les équipes féminines, il va leur dire un mot. Il y a quelque chose de très spontané, de beaucoup plus large que l'exercice qui pouvait être le nôtre en télévision ou qui peut être celui qu'on peut faire ailleurs. C'est vrai que ça ouvre un champ des possibles qui est plus important.
Alors, je m'appelle Sonia Chironi, j'ai 37 ans, je suis journaliste. J'étais journaliste pendant 10 ans à ITV et aujourd'hui je collabore à Explicite. D'une certaine manière, l'aventure Explicite s'inscrit bien dans le prolongement de ce qui a pu se passer à ITV, dans le sens où ce mouvement de grève, on l'a lancé parce qu'on était dans une réflexion par rapport à notre travail, par rapport à notre métier de journaliste. Et donc, pendant ce mois de grève, on a tous été confrontés à la manière dont on conçoit ce métier, la manière dont on a envie de l'exercer, pourquoi on a envie de le faire, pourquoi on a toujours envie de le faire ou pas d'ailleurs, parce que c'est des questions qui ont pu aussi nous traverser les uns les autres. Et en l'occurrence, je pense, je veux pas parler au nom de tout le monde, mais je pense que on est retombé amoureux de notre métier. En fait, parce que on a eu la sensation qu'il fallait le défendre, et c'est quand quelque chose est menacé de disparition, parfois, qu'on se rend compte à quel point c'est précieux et à quel point ça mérite de se battre pour le défendre.
C'était Sonia Chironi, ex d'ITélé, présentatrice du magazine Signaux Faibles d'Explicite, au micro de Constance Léon, atelier des médias. Nous sommes toujours avec Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos du site Les Jours. Depuis un an, Isabelle, Raphaël, vous poursuivez une enquête sur la prise en main par l'homme d'affaires Vincent Bolloré du groupe Canal+. On vient d'entendre les porteurs du projet Explicite, un nouveau collectif média lancé donc par 54 de la centaine de partants de la chaîne ITélé. On ne peut, quand on les écoute, s'empêcher de penser à vous aussi, à votre projet donc de partant de Libération. Vous avez quitté donc un journal pour lequel vous avez travaillé plus de 15 ans, l'un et l'autre. Vous avez couvert les médias pour lancer un autre projet. Vous avez pris plus de temps que les équipes d'Explicite. Vous avez mis un peu plus d'un an entre votre départ, donc janvier 2015 de Libération, et le lancement des Jours.
Oui, parce que, oui, effectivement, il y a...
Puis Libération qui avait été rachetée aussi par un homme d'affaires. Vous Patrick pouvez peut-être Drahi. Pas en parler.
On peut s'allonger sur le divan et vous expliquer pourquoi ça nous a c'est tellement touché, la grève à ITV.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai écho, et dans ce que dit Sonia Chironi, il y a cette réflexion sur notre métier, on l'a eu nous aussi à travers une des nombreuses crises qu'on a pu traverser à Libération.
Il y a eu de la violence aussi à Libération, mais peut-être pas de la même manière.
Alors c'était certainement pas une telle violence et on était aussi un peu moins tolérants, je pense. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un parallèle. C'est vrai que nous on a pris du temps. Déjà nous ce projet, le projet des Jours, on l'avait quand on était déjà à Libération. Donc quand on a décidé de partir de Libération, c'était à cause de ce projet,
grâce.
Principalement à cause et grâce, qui était effectivement né d'une crise et d'une remise en cause de nos manières de travailler. Donc ça, c'est vrai, c'est des moments importants. Et ensuite, c'est vrai qu'on a pris du temps parce que une fois qu'on a une idée, c'est bien. Une idée éditoriale, c'est très bien, mais ça prend du temps de monter un média. C'est quelque chose de très sérieux et même d'assez fastidieux et difficile. Donc on a pris du temps éditorialement et puis aussi pour le business. Mais on a réussi.
Justement, on va peut-être conclure sur cette idée. Quel regard, autocritique ou pas, hein, vous portez sur cette expérience Les Jours qui vous a permis de mener une enquête extrêmement méticuleuse sur un sujet que vous auriez peut-être suivi avec un petit peu plus de distance si vous travaillez, j'imagine, pour un quotidien comme Libération. Vous auriez suivi le dossier, mais peut-être pour un livre, et vous n'auriez pas publié 52 articles sur la saga ou sur cette histoire extraordinaire. Quelles leçons vous tirez de la pertinence du projet Les Jours au regard de ce que vous avez réussi à faire?
Ça va paraître très, très immodeste. On a eu raison.
On a été géniaux.
On a été géniaux. Non, mais c'est vrai que notre idée, c'était de faire à nous tous, ces 9 cofondateurs des Jours, de faire des choix et des choix très forts dans l'actualité. On parle pas de tout sur Les Jours, mais ce dont on en parle, encore une fois, très immodestement, on en parle bien et en profondeur. Et avec cette idée, quand Isabelle parle de modèle économique, c'est ça qui nous porte aussi. Nous, on a voulu un modèle très pur, c'est pas de publicité et des abonnements.
Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que, pour le coup, nous, personnellement, parce qu'on peut parler de l'Empire, ce travail-là, on aurait pu le faire nulle part ailleurs. Voilà, tout simplement. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé en travaillant sur Vincent Bolloré. Ce travail-là n'existerait pas ailleurs. C'est la conclusion.
Je précise pour la forme que j'ai contacté les directions de la communication de Vivendi et de Canal+, pour les inviter à s'exprimer dans la mesure où il allait être question de leur entreprise dans cette émission. Elles n'ont pas souhaité le faire. Merci.
Alors.
Merci Isabelle Roberts, merci Raphaël Garrigos, merci les Gariberts, je l'ai pas dit, enfin je l'ai dit au début de l'émission. C'est comme ça qu'on vous appelle sur Twitter et puis c'est votre surnom. Votre enquête, L'Empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+, est à lire au Seuil et sur le site des Jours. Abonnement à partir de 5 euros par mois. Cet atelier a été préparé par Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, Simon Decreuse et Ziane Malouf. Merci aux équipes d'Explicite pour leur accueil. Si vous souhaitez les soutenir financièrement, c'est sur la plateforme KissKissBankBank. Je soutiens Explicite jusqu'à ce dimanche. Merci enfin à Julien Lebot qui m'a remplacé avec talent à ce micro pendant plusieurs mois. Quelque chose me dit que nous allons te réentendre très bientôt sur les ondes de RFI. Une radio à écouter en FM, sur RFI.fr et sur toute bonne application de podcast. Salut à toutes et à tous.